My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Arnaud Vialanex, qui est fondateur de AVX Consulting. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'avoir sur ce podcast de l'Entertainment Lab. On va parler d'immobilier, d'un secteur que tu aimes beaucoup et qui est ta nouvelle activité. Tout d'abord, comment t'en es arrivé à basculer sur AVX Consulting, sachant que t'as travaillé avant dans des très grands groupes?
En fait, effectivement, j'ai un parcours dans différents secteurs, et notamment l'immobilier, qui s'est fait plutôt dans des grands groupes, ou en tout cas des acteurs de référence du marché. Et puis, il y a 3 ans, j'ai quitté un groupe qui a disparu depuis, qui s'appelle Geoxia, mais plus connu par ses marques, maisons individuelles, dont Maison Phoenix. Et puis à ce moment-là, j'ai souhaité rester finalement dans le secteur de l'immobilier, enfin l'écosystème, on va en parler. Et j'ai pas souhaité immédiatement repartir vers une grande entreprise. Et en fait, les missions sont enchaînées. On m'a proposé une mission très rapidement. Et puis voilà, je persiste. Et je fais des missions d'intérim management, de conseil, marketing, développement commercial, dans tout cet écosystème.
Alors, on va arriver à l'IMO, mais quand même, petite question de curiosité personnelle. Tu as travaillé dans des grands groupes, je pense notamment à Bouygues Télécom. Toutes ces grandes expériences dans ces grands groupes corporate, qu'est-ce que ça t'a appris finalement ou... En quelques mots.
Alors Bouygues, Carrefour, pour citer que celles-ci, effectivement, c'est les plus marquantes, ou Nexity dans l'immobilier, sont des grands groupes, mais avec le côté positif du grand groupe, c'est-à-dire qu'il y a un aspect extrêmement formateur. Mm-hmm. Il y a des cultures d'entreprise très fortes. Alors on n'aime pas, mais en tout cas, moi, une fois que j'étais dedans, j'adhérais. Sont de bonnes écoles, vraiment de formation et d'arriver à bien travailler. Et pour moi, ça a été des tuteurs au sens positif du terme, enfin dans toute ma carrière. Quoi.
Et souvent des fonctions autour du marketing hein, que tu as eu.
Alors moi, c'est chaque fois je dis le développement au sens large, c'est-à-dire moi je suis hybride hein, entre le commerce, la direction commerciale, marketing, l'animation commerciale, l'innovation, le digital, parce qu'il y en a toujours un peu partout. Et avec un fil conducteur qui a été dans toutes ces boîtes du développement d'offres, de produits, de services, de la performance commerciale, en l'utilisant finalement ces leviers. Et puis aussi la communication digitale, quoi, bien sûr.
Ok, bon, le mot développement pourrait bien correspondre à tous ces différentes facettes.
Ça devait être le nom de ma boîte, en fait. Je l'ai appelé AVX Consulting parce que c'est le nom que j'avais dans le groupe Bouygues, AVX. Mais la boîte, initialement, je l'avais appelée Progressio. Progressio en latin, ça veut dire développement.
Ah, on n'est pas loin.
Je n'ai pas pu le garder parce que c'était déposé, mais l'idée est bien là, c'est le développement au sens large.
Le dev. Le growth, comme disent les US.
Growth.
Alors, on va aller sur l'immobilier qui est ton sujet vraiment actuel et qui nous concerne tous. Hein, tu le disais en off, l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on est tous concernés finalement de près ou de loin, qu'on soit locataire, propriétaire ou autre. Est-ce que tu peux revenir? Alors, je crois qu'AVX Consulting est positionné vraiment sur toute la filière immobilière. Donc, c'est-à-dire, ça peut être une foncière, ça peut être un grand groupe et tu les aides vraiment dans leur transformation, les entreprises, par rapport à l'immobilier. Si tu peux en parler un peu de...
Oui, alors, AVX Consulting, en fait, ça adresse donc le secteur du logement / immobilier, donc qui est très large, alors plutôt en ce qui me concerne le B2C ou B2B2C, c'est très large parce que moi je travaille à la fois pour des gens donc du neuf, donc la promotion ou la construction de maisons individuelles, ça peut être la gestion, donc gestion locative, syndic, sujet un peu moins glamour hein, généralement, la transaction, donc les agents immobiliers, hein, c'est ce qu'on appelle les agents immobiliers, ça peut être des très gros groupes ou des toutes petites entreprises, start-up, scale-up, etc. Ou des fonds d'investissement. J'ai un dossier avec un fonds d'investissement. Et puis aussi des groupes ou des sociétés qui veulent se développer au sein de l'immobilier. Là, je viens de finir une belle mission à tout point de vue pour un grand groupe de distribution. Je ne citerai pas le nom parce qu'ils sont très touchés là-dessus, mais qui voulaient lancer des offres dans l'immobilier. Donc voilà. Donc c'est très large en fait.
Hein, c'est large. Et c'est marrant parce que j'étais par hasard. enfin, voilà, la vie m'a amené dans le sud ce week-end, et il y avait le MIPIM, qui est l'événement. Tu y étais ou tu l'as fait déjà par le passé, j'imagine?
Je connais, effectivement, mais c'est très tourné, effectivement, sur le neuf et tout. C'est pour les professionnels, effectivement. Mais moi, je vais plutôt au Rent.
Tu vas où, toi?
Au Rent, Salon Rent, qui est plus en phase avec ce que je fais, effectivement, et qui est plus large, je trouve, en termes de secteur.
Plus large, ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce secteur, il est, peut-être tu peux le définir, enfin, c'est un peu, j'imagine, un secteur assez morcelé, il y a plein de typologies d'acteurs, mais toi qui as découvert maintenant vraiment ce secteur de l'intérieur depuis quelques années, qu'est-ce qui t'a frappé, en fait?
Alors, tu l'as dit, effectivement. Alors déjà, c'est, quand on parle d'immobilier, souvent, ça, les Français le résument aux agents immobiliers. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large parce qu'il y a immobilier, logement. Donc, il y a du neuf, il y a de l'ancien. Donc déjà, il y a une grosse démarcation.
Ouais.
Ce qui est clair, c'est que ce marché, quand même, est très morcelé. Quel que soit le secteur, soit l'administration de biens, on va avoir, par exemple, un Foncia qui est un énorme acteur. Puis après, on va avoir des cabinets comme ça de quartier, entre guillemets, tout petit. C'est vrai pour la promotion, c'est vrai pour la transaction. Donc très très morcelé, avec une digitalisation des processus qui est inégale en fait, hein, selon les secteurs. Et puis comme tu l'as dit justement, effectivement c'est un secteur qui touche tout le monde, parce qu'on a commencé par être locataire à un moment donné, ou dans une résidence étudiante, on va être peut-être acheté, on va être bailleur, on va peut-être finir sa vie dans une résidence senior, ça aussi c'est une autre forme d'immobilier, hein. Je ne parle pas des EHPAD, je parle des résidences seniors, je te vois sourire. Et voilà, donc tout le monde est touché d'une façon ou d'une autre par l'immobilier. On a des étrangers de vie vont rencontrer à un moment donné le monde de l'immobilier.
Ça reste le poste, d'ailleurs, pour faire un petit peu de pédagogie, ça reste l'un des postes principaux de dépenses des Français, des Européens. L'IMO reste le basique, quoi.
Ah ben, entre le loyer ou le crédit, les assurances d'immobilier, multirisque habitation, et puis toutes les dépenses qui gravitent autour de la maison, effectivement, ça reste le poste numéro un. Et un poste, hein, le plus contraignant et celui qui est le plus en difficulté, effectivement, aussi en ce moment.
On va en parler avec l'actualité. Ouais. Mais du coup, c'est un poste, tu penses, qui va à vocation à monter en termes de dépenses dans le temps ou dans les années à venir? Ou quelle est ta vision de...
Là, il a tendance à monter. Alors, faut séparer, si on prend le neuf, il y a de façon structurelle une augmentation des coûts de construction. Que ce soit pour la promotion des maisons individuelles. Alors, structurelle, parce qu'il y a des nouvelles normes environnementales, donc la RE 2020 qui impose, et à juste titre, que ce soit mieux construit, plus durable et moins énergivore. Donc ça pèse sur les coûts de construction. Il y a des sujets plus conjoncturels, donc il y a la crise de l'énergie, il y a la reprise économique suite au Covid qui a fait exploser les coûts. Donc il y a à la fois du conjoncturel, du structurel qui fait augmenter les coûts. Et puis sur les sujets d'anciens, quand on achète de l'ancien, eh bien, il y a aussi une augmentation des coûts qui est très significative, qui est liée aussi à la réglementation énergétique. C'est ce qu'on a appelé la loi résilience. Moi, j'appelle ça la loi anti-passoire thermique, et qui impose effectivement qu'on fasse, si on veut louer notamment, quand on est bailleur, qu'on fasse des travaux important, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par logement, pour avoir des logements moins énergivores. Et en France, il y a beaucoup de logements.
Il y a beaucoup d'aides et d'indemnités là-dessus, ou ça dépend un peu?
Il y a des aides, mais c'est un maquis, enfin, faut vraiment être hyper pointu pour comprendre ces aides. C'est cher, et donc ça veut dire que les bailleurs, à un moment donné, quand tu es bailleur, vont devoir payer les travaux s'ils veulent louer. Et puis ceux qui occupent des bâtiments qui sont énergivores, et ben ils vont payer plus cher, ils vont avoir des coûts énergétiques très, très élevés. Donc oui, de façon un peu durable, on va avoir encore une augmentation du poids de l'immobilier dans les coûts mensuels des Français. Mais bon, voilà, c'est le logement, c'est utile, quoi.
C'est le basique.
Basique.
Donc, intéressant. Donc, tu commences déjà à en parler, peut-être parler du compte de l'actualité. Donc, depuis, tu l'as un peu mentionné, en après-Covid, puis avec les événements internationaux depuis 2 ans, cette inflation qui est très forte. Donc, les gens, les taux d'intérêt ont beaucoup monté, c'est beaucoup plus difficile d'acheter aussi, donc les financements sont plus compliqués à obtenir, les gens sont pressurisés. Désolé, je vais dresser, malheureusement, j'ai l'impression d'être dans un truc de science-fiction, mais c'est ce qui est en train de s'écrire.
Non, c'est du réel.
C'est notre vie. Les gens sont pressurisés, ils ont moins d'argent, les choses coûtent plus cher, ils ont moins de sous pour se loger, pour se vêtir, etc.
L'inflation,
et du coup, qui a une conséquence effective sur l'achat immobilier, qui peut-être était un peu plus présent il y a il y a 2-3 ans encore, enfin, ou en pré-Covid, mais maintenant, ça devient beaucoup plus difficile, quoi.
Mais c'est difficile, en fait, pour tout l'écosystème. C'est-à-dire, déjà, ceux qui sont des professionnels de l'immobilier, tu as parlé du neuf, effectivement, il y a les coûts de construction qui ont explosé pour les raisons qu'on a évoquées. Hein, raison structurelle, conjoncturelle.
Surtout matière première, en fait.
Énergie aussi. Je veux dire, tout coûte plus cher. Hein, ça, c'est un sujet lourd. Il y a le sujet, effectivement, du financement qui est structurel aussi en France et conjoncturel.
Qui s'est durci. Hein.
Voilà, en fait, et là, tout le monde est touché, toute la filière, soit le neuf ou l'ancien. Toute la filière est touchée. Donc, soit les professionnels immobiliers qui vendent ou qui construisent, ou ceux qui financent, et bien sûr, les clients. Les candidats à l'accession, tout le monde est touché.
Comment t'expliques justement, pour aller sur ce point-là, qui est un des points clés, la hausse des taux d'intérêt qui fait que les gens, ça peut les faire un peu plus flipper qu'avant?
Alors, la hausse des taux d'intérêt, ce qui finalement génère une baisse du pouvoir d'achat immobilier, il y a plein de facteurs exogènes et tout. Ouais. Voilà, donc c'est en train de baisser, donc c'est une bonne nouvelle.
C'est pas forcément la raison number one.
Le sujet numéro un, pour moi, il n'est pas là. Ça, c'est un accélérateur de crispation, on va dire, pour le marché. Ouais. Ça a grippé le marché, mais le vrai sujet pour moi, il tient plus à des choses qui sont un peu structurelles, que sont des règles d'octroi fixées par l'autorité de tutelle des banques, qui s'appelle le HCSF. Personne ne connaît, mais enfin, ce machin est un... Ça dépend de Bruno Le Maire. Et HCSF avait une vision, en fait, qui était d'éviter le surendettement par l'immobilier des Français. Donc, ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est que les directives qu'ils ont données aux banques, et les banques doivent les suivre, font que les règles d'octroi se sont grippées. Donc, il faut, on joue sur la durée d'endettement, on joue, sans rentrer dans le détail, mais un apport significatif, une épargne de précaution, des choses un peu plus techniques qui vont toucher le neuf, notamment les investisseurs. Résultat des courses, c'est que avant, on parlait des fourches codines des banques, qui n'était pas toujours évident de souscrire. Maintenant, les banques, elles ont encore plus de mal à octroyer du crédit, parce que si elles suivent à la lettre ces directives, elles n'ont pas le choix que de le faire. Enfin, dans 80% des cas, les Français n'ont plus accès au crédit. Et c'est pour ça que le marché s'est grippé, le nombre de crédits a fortement diminué. Et ce qu'on ne voit pas, surtout, c'est qu'il y a des populations qui ont disparu, ce qu'on appelle dans le jargon la primo-accession sociale, c'est-à-dire les Français qui sont les plus modestes en termes de revenus, ils n'arrivent plus à acheter, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Moi, j'ai connu dans la maison d'hiver, ils ont disparu totalement, puisqu'ils ne peuvent plus rentrer dans le cadre de cette autorité de tutelle. C'est ça le vrai sujet.
C'est un peu grave. Comment tu
c'est
vois
très grave.
Ils sont allés trop loin sur ce truc-là,
voilà.
En fait.
Donc, on appelle pas, à Bruno Le Maire, qui est l'autorité de tutelle de l'autorité de tutelle.
Bruno Le Maire, ça fait au moins un deuxième podcast qu'il doit écouter, parce que ce matin, on a parlé des filières de manufacture France et de faire revaloriser les industries françaises à l'international. Donc, il y a un sujet pour aussi un peu relancer l'économie, hein, avec toute la sinostrose. Là, il y a quand même un deuxième sujet qui est important. C'est peut-être relâcher un peu la pression, les mecs.
Bruno, si tu nous écoutes, effectivement, il faut relâcher. Et ça, c'est simple. En plus, c'est une action qui est simple.
Ça, il pourrait le faire, en fait.
Il peut le faire.
Il peut le faire.
Voilà, c'est très facile à faire. Et ça donne un message extrêmement positif au marché, aux banques, aux acteurs de l'immobilier, aux candidats à l'accession. Parce que là, on a dégoûté beaucoup qui ont essayé, qui ont tenté de faire des dossiers d'accession et qui se sont fait rejeter par les banques.
Ça, c'est pas normal quand même, parce que c'est des gens qui travaillent dur. C'est comme l'accession aussi avec les histoires, les taxes. Enfin, même si on va pas faire tout sur la politique française, mais c'est vrai que ce sont des décisions qui sont importantes, qui sont structurelles et qui sont des droits, tu le dis, un peu inaliénables. Désolé, je fais mon petit côté engagé, je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que, à t'écouter, pourquoi enlever le droit à une famille
Et surtout que ces directives, quand tu regardes, j'ai justement écrit encore un article là-dessus hier, ces directives ne servent à rien parce qu'elles avaient pour mission de diminuer le surendettement pour cause immobilier. Or, le surendettement pour cause immobilier, c'est moins de 10% du surendettement. Le vrai sujet du surendettement, c'est les crédits et prêts personnels, etc. Crédits auto et compagnie, donc c'est autre chose. Et en plus, le taux de surendettement, pour cette raison-là, n'a pas diminué. Enfin, il n'a pas évolué alors qu'on sert un maximum. Donc c'est inefficace pour cette raison-là. Et par contre, ça a grippé complètement le marché. Le vrai sujet est là. Et en plus, est venue la hausse des prêts immobiliers, des taux immobiliers, qui a réduit le pouvoir d'achat. Mais de façon structurelle aussi, maintenant, si tu veux acheter, il faut envisager quand même de faire des travaux énergétique, parce que l'énergie coûte beaucoup plus cher, et on ne peut plus rentrer maintenant dans les appartements, des maisons qui sont des passoires thermiques. Enfin, ça devient vraiment très compliqué. D'accord. Et ça, ce sont des budgets de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des appartements.
Question de curiosité quand même, quand on parle de tout ça, on a l'impression que les gens seraient peut-être moins solides, ou il y aurait des situations professionnelles plus précaires. Pour toi, ce n'est pas forcément le cas. Les gens peuvent avoir les moyens et les capacités d'acheter, ouais. C'est juste qu'on on leur ferme la porte, quoi.
Ah là, on a mis des portes, des garde-fous. Alors, ça ne se voit pas forcément. On voit que le nombre de crédits a baissé. Le nombre de primo-accédants a peu baissé. C'est encore un Français sur deux qui est primo-accédant quand il achète de l'immobilier. Donc, ça peut évoluer finalement. Par contre, la nature, la physionomie de ces primo-accédants, elle a évolué. Parce qu'ils vont être un peu plus âgés qu'avant, ils ont un peu plus d'épargne.
Tu dirais quoi, une petite trentaine, quel âge ?
Un peu plus de la trentaine quand même, ouais. Ils se font aider par la famille, il faudra regarder toutes les donations qui sont faites de façon plus ou moins officielle, notamment les sarcosettes. Tu sais, tu peux donner 32 000 euros à tes enfants de façon, devant notaire, etc. Ça a dû exploser. Le cash, le niveau d'apport a explosé. Il y a une étude de Century 21 pour la fin d'année 2023 qui indiquait que le taux d'apport était de 36%. 36%. Oui. Il y a quelques années en arrière, on était à peine 10%. Donc, ça a explosé. Donc,
on valorise plus maintenant l'apport en amont. Et donc, il faut du cash. Et donc, c'est très difficile pour les gens. Et donc, forcément, il y a les familles.
Les plus modestes sont écartés. Ils ne peuvent pas acheter, c'est clair. Donc, en maison individuelle ou en
logement collectif. C'est la même tendance en Europe pour toi, sans faire le truc international?
Non, là, on a vraiment quelque chose de spécifique.
La France a vraiment plombé le truc, quoi.
L'exception française avec ce fichu HCSF, il faut leur casser les pattes. Et c'est facile à faire. C'est une entité. Une fois que la règle est donnée et qu'on envoie un message positif au marché, là, ça va pouvoir repartir.
Donc Bruno, si tu nous écoutes...
Voilà, Bruno, il faut faire quelque chose et tout.
Je suis sûr qu'il sait qu'il faut faire quelque chose.
Il le sait.
Alors, on continue. Sur les tendances... Alors, c'est intéressant, tu as parlé du neuf et du vieux. Alors ça, c'est intéressant parce que, souvent, on a l'image des grandes villes où il y a forcément beaucoup plus l'ancien. Mm-hmm. Tu as parlé de construction de nouvelles maisons. Comment ça se situe, finalement, dans le marché IMO, ça ? Il y a de plus en plus de neufs et de nouvelles constructions ?
Non, justement, le neuf se porte très très mal. Alors, le logement collectif, donc ce sont les promoteurs immobiliers qui construisent, là je parle du logement privé, parce qu'il y a aussi du logement social qui lui se développe plutôt bien, mais dans le logement privé, les promoteurs sont dans une crise terrible, dure et durable, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, coût de la construction, baisse des ventes pour les raisons de financement qu'on évoquait, la chute du foncier. L'accès au foncier devient de plus en plus dur, puisqu'il y a la loi résilience qui date de quelques années, qui impose aussi, qui vise à ce qu'on ait une artificialisation nette qui soit négative dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on arrête de bâtir sur du foncier existant, et que ce soit pour des constructions, des bâtiments, des parkings, etc. Et donc, il y a à la fois un sujet de vent contraire, on va dire, contre le neuf, les maisons c'est encore pire, construire des maisons individuelles, et le logement collectif, ce qui fait qu'ils se retrouvent en difficulté, nos promoteurs. Il y a le plus gros d'entre eux, l'ancienne maison, donc Next City, annonce un plan social là, très récemment. La plupart des groupes de promotion, y compris les très gros, qui ne sont pas forcément les plus agiles d'ailleurs, sont en difficulté. Ils font des plans de départ, plans sociaux, etc. Et tout. La maison individuelle, après j'arrête parce que là on va les pendre, mais la maison individuelle c'est sinistré.
Donc il n'y a plus d'acheteurs, concrètement.
Ils n'ont pas d'acheteurs, très peu, ou des acheteurs finançables solvables. Le foncier c'est encore pire pour la maison individuelle, parce que la maison individuelle est un peu le mal-aimé aussi du gouvernement actuel. On se rappelle encore des déclarations d'Emmanuel Wargon, une des je ne sais combien de ministres du logement qu'il y a eu là depuis 5-6 ans. Donc le secteur de la construction ne va pas bien. Mais une fois qu'on a dit ça, donc il y a du structurel, du conjoncturel, c'est vraiment le moment aussi de casser les codes, de se réinventer, quoi, effectivement. Donc, là, il y a des opportunités.
Alors, à t'écouter, c'est assez incroyable tout ce que tu racontes, qui est un petit peu quand même une conséquence de l'après-Covid. Tout ça est un petit peu une résultante.
Le Covid a joué sur les coûts de construction, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il a joué aussi sur les modes d'usage du bâtiment, parce que des locaux professionnels, enfin là, je parle du télétravail, l'explosion l'explosion du télétravail, elle a complètement bouleversé, pas forcément dans le bon terme, en tout cas, dans le bon sens, le tertiaire. Donc, ceux qui produisent du bureau et qui construisent bureau et qui le louent, tu vas à la Défense, et il n'y a pas que là-bas, bien sûr, mais il y a un nombre de tours qui sont à peu près incroyables, qui est quasiment vide. Oui. Donc, il y a eu le confinement, le Covid a provoqué des bouleversements assez durables.
Ça, est-ce qu'ils ne vont pas y revenir juste sur ce point-là ? Parce que finalement, le télétravail, on a bien vu que ce n'est pas non plus... Il y a du plus, mais il y a aussi des gros points de progression depuis trois ans. Est-ce que tu crois qu'ils vont trop loin ? Et est-ce qu'il y a des gens quand même en haut lieu qui se disent « Attends, je lâche les bureaux, mais je suis en train de perdre toute la fédération de mon équipe, tout cet aspect-là. » Ça peut être aussi un des effets pervers.
Le patron, j'ai lu un article intéressant de Arthur Sadoun, le patron de Publicis, il y a peu de temps, qui avait poussé beaucoup en fait le télétravail dans son groupe. Et là, il revenait, il faisait un bilan un post-mortem un peu de cette expérience en disant, en fait, oui, ça a amené beaucoup d'avantages pour les collaborateurs. Par contre, il y a un inconvénient majeur, c'est surtout dans les groupes qui font de la créativité, etc.
C'est
l'innovation, l'émulation, effectivement. C'est que les gens, en se voyant moins ou en visio, n'arrivent plus à créer comme auparavant. Donc, il y aura peut-être des ajustements, mais... Globalement, le secteur du tertiaire a pris un coup aussi.
Sur l'appartenance, ça joue, tu crois aussi, toi, de ton point de vue, sur le côté de se sentir proche d'une boîte. Est-ce qu'on peut réussir à l'être quand on a télétravail, ou pour toi, le lien, forcément, il se distend un peu ?
Alors moi, je suis peut-être old school là-dessus, mais je pense qu'on a besoin de se voir donné. Sentiment d'appartenance, l'esprit de corps, on appelle ça dans l'armée, enfin, est important. Et tu le fais pas en visio, enfin, ou alors, j'ai
d'accord.
Mal compris, quoi.
On
il faut se voir à un moment donné. Voilà.
Oui, bon, bah,
on reviendra peut-être sur. On va peut-être réajuster un peu le marché, mais enfin, le tertiaire est touché. Ce qui caractérise en fait ce qui se passe dans l'immobilier / logement, c'est une crise qui est dure, voire très dure, qui est durable et qui touche à peu près tout le monde. Pas forcément pour les mêmes raisons.
Oui, parce que
ça touche tout le monde.
Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les gens qui ont plus de difficultés pour acheter qui sont touchés. Aujourd'hui, même les gens qui ont pas mal de moyens, en vrai, sont freinés dans leurs élans par le contexte actuel.
Bah, tu regardes, les promoteurs étaient très mal habitués. Hein. Sont des enfants gâtés, j'ai envie de dire. Mais pendant des années, ils étaient quand même nourris par les dispositifs fiscaux. Il y a eu le Cellier, il y a eu le Duflo, il y a le Pinel, etc. Enfin, et plein d'autres, qui ont permis de développer la vente sur ce qu'on appelle les investisseurs privés, comme toi et moi. Donc, tu achètes un appartement, mais tu vas le louer à quelqu'un. Et donc, ils sont rendus dépendants de cette clientèle-là. Cette clientèle a représenté 50-60% des ventes chez des promoteurs, donc elle est essentielle. Et c'est des gens qui n'ont pas des problèmes de financement, comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est des gens qui avaient des problèmes d'impôts. C'est-à-dire, je paye trop d'impôts, donc je fais un investissement fiscal et je réduis mon impôt pendant X années. Mais ces gens-là, ils sont touchés aussi par l'accès au financement pour les règles du fichu HCSF. Il y a des sujets un peu techniques, en fait, dans les règles d'octroi qu'a donné le HCSF. Et donc, cette clientèle-là, elle s'est évaporée totalement. Donc, les promoteurs sont trouvés avec des primo-accédants occupants qui n'arrivaient pas à être financés, faute de moyens, et des investisseurs privés qui, eux, ne pouvaient plus accéder parce que les règles ont changé. Et donc, ça s'est effondré comme un château de cartes. Les ventes ont chuté de 40-50% pour beaucoup de promoteurs. Ils ont des taux de casse. C'est au moment où tu fais la réservation, tu reçois une résiliation de la commande quelques jours après.
Les commerciaux, là.
On est sur des taux de 40-50% pour certains. Donc les commerciaux, pour ceux qui restent, parce qu'il y en a de moins en moins quand même chez les promoteurs, ils ont du mal. Non. Et d'ailleurs, les grands groupes, on en a cité quelques-uns tout à l'heure, font ce qu'on appelle, pour sécuriser les ventes, ils font ce qu'on appelle la vente en bloc. Ils vendent en une fois un bâtiment à un bailleur social, à un institutionnel, en une fois. Mais seulement, ils ne vont pas le faire aux mêmes conditions de marge que s'ils vendaient au détail, toi et moi, par exemple. Okay. Donc ça pèse. Donc, tout le monde est touché, d'une façon ou d'une autre, et tout le monde doit réagir. Parce que la transaction, c'est pareil, la gestion, c'est pareil. Les administrateurs de biens, on n'en a pas parlé, mais Foncia, Nexity, etc., ils sont aussi administrateurs de biens. Ils gèrent des biens en gestion locative,
ils ont
un syndic.
Gros rôle. Hein. Pour toi, c'est l'acteur central de la filière. C'est vraiment les syndics ou c'est plutôt la filière d'agence immobilière? Tu mettrais quoi au centre?
Les deux, en fait. Les deux, ils font à peu près le même métier pour certains. Mais eux aussi sont pénalisés parce qu'ils étaient nourris aussi par le neuf. Hein, la promotion amenait des bâtiments qu'il fallait gérer en syndic ou en gestion locative pour des bailleurs privés. Et cette manne-là, elle a disparu aussi, enfin elle s'est effondrée.
Les lois, dans tout le monde est touché. Après, on va aller sur le positif, parce que là, évidemment, mais la tendance sur les loyers et tout ce qui est charge de copropriété, comment ça a été depuis 12 mois, 18 mois?
Ah bah terrible, hein, parce qu'il y a eu
Tout est en train d'augmenter, quoi.
Oui, alors le gouvernement quand même a capé à un moment donné, donc ça c'était plutôt positif hein, pour les locataires, il a capé la hausse du loyer. Chaque année, le loyer est révisé selon ce qu'on appelle un indice, l'IRL, un indice de révision des loyers. Et là, ils ont capé, ça s'emballait parce que c'est lié à des coûts de construction, etc. Donc, ça s'emballait. Là, ils ont capé, entre guillemets, si je ne dis pas de bêtises, à 3,5 l'augmentation du loyer l'an dernier. C'est revu tous les trimestres. Mais l'administration de biens, elle est dans la panade pour les raisons d'apport du neuf que j'évoquais, mais aussi parce que sur le marché parisien, par exemple, suite à la loi résilience, donc anti-passoire thermique, on a interdit à des bailleurs qui avaient des bâtiments, enfin des locaux, des appartements énergivores, de louer. Donc on est sur les lettres basses, donc A, B, C, D, E, F, G, etc. Et en janvier 2023, il y a 20% du parc locatif à Paris, par exemple, qui s'est évaporé. C'est un marché hyper tendu, wow, déjà. Donc ça a disparu parce que les bailleurs ne pouvaient pas louer. D'accord. Parce que si tu loues avec un DPE qui est trop bas, tu es en infraction. Donc là, on a réduit. Alors, ça part encore une fois d'un bon sentiment, sauf que le planning... voilà, donc ça met en difficulté beaucoup de villes comme Paris qui sont déjà hyper tendues. C'est là où il y a des bâtiments haussmanniens aussi, enfin ce genre de bâtiments anciens. C'est pas vrai partout, mais globalement, le marché locatif est passé de tendu à hyper tendu sur beaucoup de métropoles.
Ça, c'est important ce que tu es en train de dire quand même.
Pas d'accès au logement.
Oui, et puis cet aspect énergétique dont tu dis que maintenant, c'est devenu ultra important, cette mise aux normes des biens par rapport à...
On n'a pas le choix, on va y aller. C'est le timing. Là, on peut reprocher au gouvernement de, effectivement... quelque chose, c'est pas d'aller dans ces directions-là, parce que de toute façon, on va tous y aller, on n'a pas le choix à un moment donné. Simplement, c'est le timing qui a été peut-être trop serré. Et là, on se retrouve avec, tu vois, Paris, mais il n'y a pas que Paris, mais il y a plein d'autres villes où le marché locatif s'est évaporé. Quand en janvier, tu as très peu de produits déjà à vendre, qu'est-ce que ça va être là dans les mois qui viennent? Parce que le marché locatif, il explose en avril jusqu'à septembre. Là, c'est là où les gens bougent, etc. Donc, ça a des conséquences pour les Français qui sont monstrueuses parce que tu peux pas te loger. Donc, t'es étudiant, tu peux pas trouver un logement. Donc, tu peux pas étudier potentiellement. Tu as divorcé, quand même quelques divorces et tout. Bah, t'es obligé de rester avec ton conjoint parce que tu peux pas bouger, etc. Tu as une mutation professionnelle, tu peux pas bouger parce que tu trouves pas de logement. T'as des boîtes dans certains marchés tendus qui cherchent qui ne peuvent pas recruter faute de logement pour les candidats. Enfin, tu vois le sujet. Donc, c'est tout le monde est touché. Okay. Bon, voilà. Alors là, on a fait effectivement un bilan
partie,
là,
voilà.
Lourd.
Ce que j'allais dire comme transition, c'est qu'on a, ouais, tu sais, en Asie, crise égale opportunité.
Tout à fait.
C'est le yin et le yang, comme on dit. Donc, on va aller maintenant sur le positif de, enfin, en tout cas, si on peut le dire, de cette période. Et toi, de ton œil de professionnel, les petits tips que tu donnerais, bah, tout un chacun qui peut aujourd'hui s'intéresser à l'immobilier, il ou elle peut être locataire, propriétaire ou faire du local investissement locatif. Quel conseil tu donnerais un petit peu dans cette période un peu mouvementée pour peut-être faire des choix qui sortent un peu intéressants, qui sortent de l'ordinaire?
Ouais, alors on va raisonner un peu par secteur parce que c'est ce qui est vrai, un endroit n'est pas ailleurs. Mais par exemple, pour la construction et la promotion, construction de logements collectifs, les promoteurs, et c'est une erreur, ils ne savaient faire que des super productions, j'ai envie de dire, sur du foncier neuf, enfin neuf vierge. C'est-à-dire, mm-hmm, on prend un terrain et on construit. Là, malheureusement, pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure, l'accès au foncier est réduit, donc et les lois vont plutôt dans le mauvais sens de ce point de vue-là. Il y a des opportunités pour faire ce qu'on appelle la surévaluation, c'est-à-dire utiliser le foncier aérien. Foncier aérien,
c'est pas des autorisations là quand même un petit peu.
Ah oui, c'est compliqué hein, oui, le foncier aérien. Alors c'est pas un truc de bobo parisien hein, parce que j'entends ça et tout. Ça c'est la connerie. Non, c'est pas vrai. Il y a une boîte qui s'appelle Upfactor que j'aime beaucoup, qui a fait des analyses donc avec l'intelligence artificielle, etc., qui a montré que sur tout le territoire, il y a des dizaines de milliers d'opportunités de bâtiments, soit des bâtiments d'habitation sur lesquels on peut faire une surélévation, soit des bâtiments publics. Soit des restaurants d'entreprise ou des crèches, je ne sais pas, enfin du type de bâtiment.
C'est vraiment revoir le parc immobilier
et donc,
actuel.
Tu peux construire au-dessus et réutiliser ce qu'on appelle le foncier aérien. Et c'est vrai sur les maisons individuelles aussi, tu peux faire une surélévation. Moi, je suis dans un groupe avant où il y avait une filiale qui s'appelait Phoenix Evolution qui, sur les maisons Phoenix, faisait une surélévation. Les gens occupaient la maison, on faisait surélévation, il y avait... Et on mettait un étage de plus ou une pièce en plus. Et on visait le foncier aérien, quoi, finalement. Donc, il y a cette opportunité-là pour le foncier.
Forcément un peu moins cher, le prix.
Là, ça va être carrément moins cher. Alors, c'est plus compliqué à opérer, c'est plus petites opérations
pour
les
promoteurs. Par contre, autorisation, il faut être costaud.
Hein. Autorisation, oui, mais il y a des boîtes spécialisées là-dessus. Il s'appelle l'Atelier Parisien de Surélévation, alors qui est parisien que par le nom, parce qu'ils opèrent sous tout le territoire. Mais c'est un savoir-faire nouveau. Et ça veut dire que les promoteurs, alors je parle plutôt les plus agiles, pas forcément les plus gros, mais il faut qu'ils s'emparent de ce sujet-là, parce que là, il y a du foncier. C'est porté par le gouvernement, pour le coup. C'est beaucoup plus écologique. C'est beaucoup moins cher. Par contre, c'est compliqué à faire. C'est un peu plus technique et tout.
Ça a drainé un peu des gardens et tout ça, un peu d'espace vert peut-être aussi.
En tout cas, c'est vraiment...
C'est une tendance que toi, tu trouves intéressante ne pas négliger.
D'ailleurs, j'accompagne des boîtes dans ce domaine-là. Il y a d'autres formes de construction aussi. Donc là, on n'est pas dans la tech, mais pour rendre les budgets de construction plus faibles, si tu vois, dans la construction, il y a ce qu'on appelle la construction hors site. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer, comme tout le monde fait depuis des dizaines d'années, pour ne pas dire des centaines d'années, où tu t'amènes les matériaux, la toupie, etc., tu construis sur site. Donc écologiquement, c'est une horreur, ça génère plein de dysfonctionnements, etc. C'est long, c'est coûteux. Au sens large du terme, il y a des possibilités de construire des éléments de la maison ou du bâtiment en usine et de venir les assembler après avec des camions sur site. C'est vrai pour la maison individuelle, c'est vrai pour des logements collectifs. Il y a un groupe japonais qui s'appelle Sekisui. Et ces gens-là font de la maison individuelle, mais de qualité. Ils ont un entrepôt où ils fabriquent, et une usine où ils fabriquent les trucs. On se croirait dans Minority Report, en fait. Il y a vraiment, c'est hallucinant. Mm-hmm. Plus près de nous, il y a des Anglais qui font ça aussi. Il y a des Polonais aussi. Là, je suis en train d'avancer avec une boîte polonaise qui fait du hors-site. Et l'idée, c'est
une nouvelle manière de construire,
Nouvelle et pas nouvelle, dans mon ancien groupe, chez Maison Phoenix, on faisait du hors-site, c'est-à-dire qu'on construisait les composants stratégiques, c'est-à-dire les dalles de béton et les charpentes métalliques, elles étaient construites dans l'usine d'Angers, d'Amboise à l'époque, et elles étaient assemblées par les ouvriers Phoenix, etc. Quand c'est bien fait, ça génère beaucoup moins de coûts pour l'environnement, beaucoup moins de coûts pour l'entreprise, donc le prix de revient, c'est rapide, etc. Donc il y a une autre forme aussi de construction.
D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ce que tu disais, parce qu'on avait accueilli, alors c'est un des premiers épisodes, on avait eu Fabrice Bonifay de Bouygues Construction.
D'accord.
Qui disait qu'il y avait une tendance qui pouvait arriver sur le bois. Il disait que le béton était quand même drainé énormément. Alors lui, il était peut-être sur les immeubles dans son discours.
Pour le coup, ouais.
Drainait beaucoup, beaucoup de pollution, mais il disait qu'effectivement, des nouveaux matériaux peuvent aussi drainer des choses beaucoup moins polluantes.
Le hors-site, ça peut être beaucoup avec du bois et c'est facile à faire. Pour les surélévations, pour des raisons de poids des structures, le bois aussi est extrêmement pertinent. Il y a un des opérateurs qui s'appelle, en France, qui fait à peu près 400 millions de chiffre d'affaires, donc c'est un point moyen, on va dire, il s'appelle Woodeum. Donc Woodeum, c'est un des acteurs qui n'existait pas il y a 10 ans. Hein, c'est l'ancien patron de Unibail Rodamco, donc Guillaume Patrinal, qui a monté ça et qui a lancé, qui a créé de toutes pièces un promoteur qui, lui, est vraiment vers des bâtiments éco-responsables avec du bois, donc des beaux matériaux, beaux au sens large du terme. Donc il y a des opportunités pour construire différemment, il y a des opportunités pour que...
Ça fait penser, tu l'as vu le film Demain, le documentaire, parce qu'on est dans l'Entertainment Lab et c'est vrai qu'en t'écoutant... C'est toutes ces nouvelles manières aussi qui émergent, de beaux projets, d'entrepreneurs, tu cites Wooder. C'est vrai que c'est des choses, on parle pas, quoi. C'est pour ça j'aime faire ce podcast, parce qu'on découvre aussi des nouvelles manières, en fait, de faire tout ça, des nouvelles initiatives. Et forcément, ça nous sort, de ce que tu disais au départ.
Faut construire différemment. Voilà, faut être un peu innovant. Tu construis différemment les maisons, les bâtiments, le foncier aérien, on l'a évoqué, les matériaux, le procédé constructif. Faut savoir que c'est industrie, le procédé constructif, comme on dit, il a pas évolué depuis des années. Alors, il y a des choses un peu plus éco-responsables, etc. On fait des bâtiments BBC et compagnie, c'est un peu verdi et compagnie, mais on construit toujours de la même façon avec les toupies, les ouvriers qui viennent et puis des dysfonctionnements qui font que les chantiers y mettent des mois et des mois pour sortir.
Parce que ça peut être aussi au service du volume et de l'accessible. C'est pas que un truc de bobo, ça peut vraiment être quelque chose.
La surélévation, c'est clairement pas un truc de bobo.
Non, je sais parce que j'ai vu des projets. Moi, j'ai des amis, notamment un ami architecte, et je vois l'aspect green qui se développe et des projets. Et c'est pas forcément une histoire de. Ça peut se faire dans des tarifs qui sont accessibles, quoi.
Tout à fait. Et en plus, c'est un intérêt la surélévation. surélévation, je reviens dessus, parce que moi, je suis vraiment fan du truc, c'est la, enfin, le concept, c'est qu'en plus, ça aide à financer ou refinancer, donc c'est une promotion aérienne, en fait, des copropriétés, puisqu'en mettant un ou deux étages, on parle de ça, hein, ce ne sont pas des immeubles immenses, on arrive à redonner du budget finalement à la copropriété. Alors déjà, ça la refinance, parce qu'il y a quand même 20% des copros en France qui sont en difficulté financière, donc c'est important, et ça permet de faire les travaux de rénovation énergétique qui deviennent indispensables. Donc en fait, on fait une action qui est multi-impact positif, plus de logements à moindre coût pour la planète et pour les nouveaux acquéreurs. Enfin voilà, c'est...
Je me marre parce que je me dis, deuxième appel à Bruno Le Maire, une petite partie des taxes pour financer aussi tous ces, ces réhabilitations,
pour le coup,
ces aménagements.
Gabriel Attal a mis en avant la surélévation là, très récemment dans un paquet dans déclaration qu'il a faite, mais on pense que ça va aller plus loin. La loi est favorable.
Mais financement des gens, c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens à un moment, c'est quand même nos immeubles, c'est quand même le... Tu le parlais de parfois les immeubles, s'ils sont pas très bien entretenus, ils délabrent très rapidement, et le problème c'est que ça c'est de l'argent, et que les gens en ont moins, et que ça peut être la responsabilité un peu d'un pays et des villes, hein.
Des effondrements dans différentes villes, il y a eu Toulouse il y a peu de temps, il y a eu Marseille à répétition, etc. Bâtiments qui sont pas entretenus, c'est des copros qui sont en difficulté, donc quand je dis 20% c'est
le chiffre
là. C'est
que la ville,
quoi,
elle a aussi un rôle à jouer là-dedans.
Bien sûr.
Moi je veux pas dire mes anecdotes, mais c'est vrai que les villes, c'est pas qu'une collection de gens propriétaires, c'est aussi c'est l'impact de ce que voient les gens, quoi.
Il y a une responsabilité des édiles locaux, et là ils doivent pousser dans ce sens-là. Donc il n'y a pas que les écolos qui font ça, hein, ça peut être partout, il n'y a pas qu'à Paris avec Hidalgo, c'est partout. Donc il y a des sujets effectivement où il faut que la construction promotion se réinvente, les achats aussi, c'est pareil. Enfin il y a plein de sujets qui vont permettre de travailler différemment. On n'est pas forcément dans la tech, hein, pour le coup, parce que souvent quand on dit qu'il faut se réinventer, on pense
concret, quoi.
Mais il y a de l'IA bien sûr, mais il y a des formes aussi, on parlait de financement, de problèmes de financement, il y a des boîtes là, que j'aime beaucoup, qui ont lancé un concept qui s'appelle rent to buy, donc en français, donc ça vient des États-Unis, c'est 10 à 15% des transactions là-bas, quoi, mine de rien, donc c'est pas un épiphénomène. Le rent to buy, donc il y a deux boîtes en France qui le proposent, il y a Estia avec un H et Sésame. Et Sésame, en fait, les deux boîtes proposent en fait d'acheter, aider un acquéreur qui n'a pas les moyens, qui n'a pas l'apport significatif au départ. On lui propose en fait, la boîte achète le bien pour lui et lui revend ensuite au bout de quelques mois. Alors c'est limité à 48 mois de mémoire. Pour lui donner le temps de constituer son apport.
D'accord.
Donc ça, c'est un pied à l'étrier, si tu veux, pour des populations de jeunes actifs, etc. Parce que Votalès est le court concept. Et il se développe très bien. Et donc, il y a ces deux boîtes pour le moment. Il y en aura sûrement d'autres. Donc ça, j'adore, parce que c'est une alternative au financement classique. Parce que si ça ne marche pas à un endroit, il faut essayer ailleurs. Enfin, je veux dire,
Petite question de curiosité, toi, tu trouves que ça pourrait être une bonne période pour acheter? Toi, si tu avais aujourd'hui 30-35 ans, tu achèterais... tu trouves que tu te risquerais quand même à acheter en ce moment, ou...
Ah ouais, clairement.
Toi, tu trouves
parce que
tu le conseilles quand même, toi?
Oui, alors déjà, si on achète dans le neuf, il faut voir que le côté négatif en fait, de la chute des ventes des promoteurs, s'ils font des promotions comme ils n'ont jamais fait. Alors maintenant, on paye pour acheter pratiquement, enfin, je veux dire... Les frais de notaire offerts, la cuisine offerte, je sais pas quoi, enfin, etc. Des
ça,
options payées
neuf.
Et tout.
D'accord.
Ça, c'est dans le neuf. En maison individuelle aussi, tu peux avoir plein d'options qui sont offertes. Donc, il y a des opportunités. Après, il faut bien choisir son promoteur ou son constructeur de maison individuelle parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de disparaître. Il y a une explosion des défaillances. Donc, il faut être sûr de là où on va.
Okay.
Dans l'ancien, il y a beaucoup d'appartements ou de maisons qui sont énergivores. C'est une super opportunité pour acheter à moindre prix. Donc là, il faut à tout prix faire des estimations fiables du coût des travaux. J'ai une boîte qui s'appelle Coût Travaux et qui fait des calculs justement du coût rénovation énergétique ou rénovation tout court. Et ça permet de négocier des super bons prix auprès de l'acquéreur et puis de faire les travaux progressivement. On n'est pas obligé de tout faire là, dès qu'on arrive. Et donc là, il y a des opportunités incroyables à peu près sur tout le territoire. Parce que là, les passoires, c'est partout.
Comment tu vois le sujet territoire justement? Bon, Paris reste une valeur très sûre quand même en immobilier. Elle continue à se développer, être une capitale très attractive. Comment tu vois aussi toute cette décentralisation à l'œuvre en France?
France depuis le Covid, bah, le télétravail, les gens maintenant qui bougent de plus en plus en région. Quelles sont les villes, tu trouves, qui sont aussi intéressantes à regarder en termes d'investissement? Alors, et de tout ça?
Il y a eu un mouvement à un moment donné suite au Covid, effectivement, qui s'est ressenti vers, enfin, des mouvements de foule, on va dire, vers la campagne ou le front de mer. Sur la côte normande, que je connais bien, la façade ouest et tout, il y a eu beaucoup, ça fait exploser le marché des résidences secondaires ou des appartements résidences secondaires. Bon, là, on en revient un petit peu parce que c'était ce côté un peu irrationnel suite au confinement. Le télétravail provoque effectivement de façon plus durable des départs vers des grandes villes de province. Enfin, tu regardes, c'est toujours l'Ouest hein, quand même qui attire le plus. Hein, c'est Nantes, c'est Bordeaux, Toulouse, Sud-Ouest, etc. Ou même des villes plus petites autour de Paris. On voit, il y a des villes comme Orléans, enfin toutes celles qui sont à une heure de TGV ou de train, qui ont commencé, ou même Reims, hein, enfin qui est à une heure de Paris, qui ont explosé aussi en demande de Parisiens, pour citer que les Parisiens. Mais donc il y a quand même des choses un peu durables qui sont installées.
Ça rabat les cartes quand même, ouais. En termes d'investissement.
Alors, ça rabat les cartes et puis ça change la donne aussi pour les pauvres provinciaux hein, dont je fais partie. C'est-à-dire que quand des Parisiens arrivent avec leur budget et qu'ils achètent sur place, là ça fait progresser les prix. On l'a vu avec le TGV là, bien avant la crise sur Bordeaux. Le fait d'avoir Bordeaux-Paris en 2 heures et pas 3-4 heures comme c'était auparavant, ça fait exploser le marché à la hausse.
D'accord. Et les JO donc, qui vont quand même tirer, être quand même un effet booster pour ceux qui pourront louer leur appartement ou leur maison.
Ça c'est des petits phénomènes. Là par contre, il faut réguler Airbnb parce que là ça crée vraiment des dysfonctionnements sur les villes.
Moi,
je connais bien le Pays Basque, c'est pareil, la location saisonnière type Airbnb, elle pousse les locaux finalement à plus habiter chez eux, quoi. Ils peuvent plus se loger, donc c'est un vrai problème de société. Donc là, il faut qu'il y ait quelque chose, une régulation locale.
Collaboratif, donc c'est vrai qu'en t'écoutant sur les nouveaux concepts immobiliers, bon, je pensais forcément à la série avec Adam Newman de WeWork, donc c'est pas forcément reluisant parce que bon, il y a le plus et la descente de ce projet, mais comment tu vois l'essor du coworking, toi, et notamment du collaboratif autour de l'immobilier? Est-ce que j'ai l'impression que l'équation est pas si simple à craquer, hein?
Ouais, je pense que c'est pas simple. Il y a eu beaucoup
de WeWork. Il y en a plein de centres de coworking divers et variés. Mais est-ce que tu penses que c'est des modèles économiques intéressants ou que ça reste pas si simple?
Alors, je connais pas super bien. Ce que je vois simplement, qu'il y a beaucoup d'acteurs. J'ai pas l'impression qu'ils gagnent très très bien leur vie.
Faut remplir, c'est toujours le problème.
Moi, je crois plus. Donc, ces espaces-là, ils ont pris leur place et il y aura très peu de développement futur, me semble-t-il. Là où je crois plus, finalement, c'est le co-living plutôt que le coworking. Le co-living, les promoteurs ont construit beaucoup des logements classiques. Ils ont évolué un peu vers les RSS, résidences services seniors ou résidences étudiants. Donc, et il y a une forme aussi d'immobilier mais qui paraît intéressant, c'est le co-living, soit pour des étudiants, mais surtout pour des jeunes actifs. J'ai une de mes filles, moi, qui est en plein dedans là, depuis 2-3 ans maintenant. Je le vois, on n'a pas envie d'habiter seul dans un studio.
Quand tu dis co-living, c'est pas loin de la coloc, c'est l'équivalent.
Alors, c'est différent, c'est des bâtiments ou des maisons, des appartements qui ont été construits, aménagés ou construits pour ça.
À la Friends.
Tes parties privatives, ouais. Tes sanitaires, tes chiottes, ta chambre. Par contre, tu partages donc le salon, la cuisine, etc., ou le jardin.
Exactement.
Et ça, j'y crois énormément parce que au-delà de l'aspect financier, parce que c'est quand même forcément moins cher qu'une loc tout seul dans un studio. Tu continues à avoir socialement, enfin il y a beaucoup plus de partage et tout.
J'ai vécu, comme tu disais, quand j'étais étudiant, moi j'avais fait mes études de cinéma à New York et il y avait un co-living. Déjà avant l'heure un co-living.
C'est pas la coloc, hein, c'est de la coloc.
Effectivement mon espace privatif, mais il y avait la cuisine, voilà. C'était très sympa.
On choisit, est-ce qu'on est avec les colocs ou est-ce qu'on est seul, et ça c'est quand même
intéressant. Oui, il y a plus d'équilibre que le pur coloc, comme on dit.
Tout à fait, donc ça j'y crois énormément.
On arrive dans la dernière partie du podcast, Arnaud. Bon, bah, je pense que les auditeurs qui aiment l'immobilier aussi intéressent. Je pense qu'ils ont leur petite masterclass là. Alors, je sais que toi, t'adores tout ce qui est. Tu fais beaucoup de sport, donc je vais plus sur un registre personnel. Et puis, même, tu t'es mis beaucoup à LinkedIn. J'ai vu une vraie try sur aussi le storytelling et tout ça. Mm-hmm. Déjà, le sport, qu'est-ce que ça t'amène dans ta vie professionnelle et ce que tu dirais là-dessus? Et puis, cet aspect aussi de communication que t'as mis en place, toi, dans ta vie pro?
Alors, sur le sujet du sport, moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Alors, je suis sur des sports non violents, entre guillemets. Donc, c'est du ski de fond, c'est de l'aviron, c'est du la nage. Je nage beaucoup, nage en eau vive. Et j'aime bien ces sports-là parce que ce sont des sports qui, donc, de
eau
fond.
Eau vive, t'as dit, hein.
Eau vive.
Tu vas où? Quelle rivière?
Eau vive. Alors, quand je dis eau vive, c'est en mer. Moi, je fais des compètes.
Ah ouais, tu fais les
le défi de Monte Cristo. Alors, je fais des compètes, hein. Attention, hein, je suis pas sur le podium, hein. Je suis plutôt moins derrière, mais, okay. Bah, 5-6 kilomètres en mer.
Quand même.
Rien qui est un peu plus people, la traversée de Pamplonne. Généralement, okay. Il y a le fils Sarkozy qui vient ou d'autres. Voilà, donc c'est marrant. Mais voilà, on est en course en mer et ça, j'adore parce que c'est et le sport de ski de fond, pareil, l'aviron. Parce que ce sont des sports de, qui permettent de. On est dans la résilience et je trouve que c'est très lié, moi, au travail que je fais aussi parce que je trouve on est plutôt sur un marathon que sur du sprint, en tout cas c'est ma vision des choses. Mmh. Et j'aime bien lier effectivement le sport avec l'entreprise et puis ça permet en plus
l'entreprise est un sport hein.
L'entreprise est un sport et puis on est dans l'entrepreneuriat. Alors maintenant je suis entrepreneur entre guillemets parce que j'ai une petite entreprise, mais voilà, donc j'aime bien lier les deux et en plus ça donne du rythme, voilà, et donc c'est intéressant. Et après sur les sujets de communication, c'est vrai que parfois j'en parle effectivement dans les communications que je fais sur LinkedIn. Moi j'utilise beaucoup sur réseau social, je communique beaucoup, je fais beaucoup d'articles et tout. J'ai su là très récemment en écoutant un spécialiste que j'étais pas trop mal classé, on va dire, dans le oui. dans les
t'es un real estate influencer.
Alors le mot influenceur me fait penser à
content maker. Nous,
ouais, plutôt je préfère ça, créateur d'influenceur. Je pense au décérébré là qui vivent à Dubaï et tout, et non, ça là, j'ai pas en vrai, enfin je me rapproche pas de ça, enfin j'espère.
Plus, comme on dit, de raconter une histoire et de créer un vrai contenu,
voilà. Et j'essaie de lier effectivement des missions ou des actions que je peux avoir dans l'immobilier avec l'actualité, des entreprises que j'ai aidées, etc. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à raconter. J'essaie de mettre en avant même des boîtes pour lesquelles je ne bosse pas. Je l'ai encore fait ce matin. Il y a une conférence auquel j'ai assisté hier sur l'intelligence artificielle au service de la transaction.
Okay.
Et donc, il y a deux, trois boîtes que j'ai vues, que j'ai citées parce que j'ai trouvé que le service qu'elles vendent extrêmement pertinent, quoi.
Ok, donc t'adores écrire forcément, et tu m'avais dit en off que ça représente quand même une bonne partie de ton travail, hein. C'est vraiment.
Ouais, mais parce que la façon de, si tu veux communiquer sur LinkedIn, il y a certains codes à utiliser, donc il y a des articles et à écrire, donc ça prend un peu de temps, mais ce temps-là me permet aussi, pour moi, il est utile parce que c'est le temps qui me permet aussi de générer des contacts, d'être visible et de générer des missions. Voilà, c'est mon moyen de captation de lead. Il passe bien aussi sûr. Par LinkedIn, bien sûr.
Sur les nouveaux moyens de communication sur l'immobilier, tu mentionnerais quoi? Donc un peu plus de visites virtuelles, l'essor du social media, qu'est-ce que tu trouves intéressant?
Il y a ça qui n'est pas utilisé correctement par les agents immobiliers globalement, je trouve qu'ils ne sont pas très bons là-dessus. Ils font du média classique, du RP.
Pas oui, facile d'apprécier un bien sans le voir directement.
Ouais. Là hier j'étais bluffé, c'est par l'IA. Il y avait les frères Pavanello, c'est deux personnes que j'adore, ils sont super jeunes et ils sont smart, qui ont lancé la maison des mandataires et Mister IA, donc service immobilier.
Okay.
Ils travaillent principalement pour les agents immobiliers sans vitrine, mais donc c'est des agents immobiliers tout court, et ils ont montré hier, ils faisaient une démo sur l'apport de l'IA pour arriver à mieux préparer les R1, donc le premier rendez-vous, avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous, après le rendez-vous, c'est bluffant. Et là, l'IA, le sujet, c'est pas ce qu'elle va arriver, elle est utile, c'est si on n'est pas dedans, on est mort. Enfin, je veux dire que les agents immobiliers qui ne vont pas utiliser.
C'est comment l'utiliser
l'IA. Moi, j'accompagne des boîtes qui utilisent de l'IA pour faire, par exemple, du scoring immobilier. Il y a une boîte qui fait de l'IA, alors c'est pas très glamour, mais qui va sur utiliser des données des administrateurs de biens pour détecter, pour leurs équipes de transactions, les futures transactions. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'est pas averti va avoir un scoring issu de l'IA qui va permettre d'appeler un prospect qui n'a pas encore décidé qu'il allait vendre, sauf qu'on a détecté les signes qu'il allait vendre. Et là, il y a un côté waouh. Donc l'IA, elle est absolument essentielle. Et si les agents immobiliers ou l'immobilier n'est pas associé à ça, là, on va passer à côté de quelque chose. Hein. Je pense que ce serait une faute grave.
Goût personnel en matière de... Donc, c'est la question que je pose à tous les invités. En termes de séries, films, ciné, donc je suis plus dans un registre créatif, de ce qui t'a marqué. Ça peut être récent ou de tout temps.
Alors, les séries, parce que t'as commencé par ça. Il y a Peaky Blinders qui est sorti il y a quelques années, que je trouve assez remarquable.
Oui.
House of Cards, qui est encore plus vieux, où j'adore le.
C'était un must.
Qui était un must. En plus, je me suis aperçu que j'avais même rameur que le président. Donc,
Que Over. Comment il s'appelait Over. On va retrouver son nom. Frank Underwood.
Frank Underwood. Donc, comme j'ai le même. Dans mon basement aussi, j'ai le même.
Qu'il avait déjà dans American Beauty. Kevin Spacey, malheureusement.
Kevin Spacey, il a déchu. Mal tourné, là,
mais, malheureusement. Voilà. Mais bon, ça reste un très grand acteur.
Voilà, non, moi, les passions, c'est le sport, c'est la cuisine. Et puis. Les BD, je t'en avais parlé, je crois, les BD, moi, c'est
de Davy Aviateur.
Bug Danny, voilà. Donc ça fait vraiment vieux con, mais
Bug Danny,
en tout cas, oui, c'est vraiment World War II. Pourquoi? Parce que je viens d'une ville là, en Normandie où il y a eu les plages de débarquement, donc je suis un peu marqué par ce sujet-là.
C'est laquelle?
Dieppe. Donc là, c'est le premier débarquement avant le Big One. Et voilà, donc je suis un peu marqué sur ces sujets.
Tu pourras écouter le podcast avec Eric Leguet, qui est le DG d'Universal Pictures, parce qu'on a parlé beaucoup de Il faut sauver le soldat Ryan, qui est quand même le film sur
très
la Seconde Guerre. Qui est...
bon,
même
très
si Spielberg a dit que c'était la liste de Schindler, son film préféré en tant que réalisateur.
Mais c'est très réaliste.
Moi, j'aime beaucoup Il faut sauver le soldat Ryan. Et petite question, forcément, je te pose la question. Tu as pensé quoi de nos amis les Kretz avec leur agence là, sur Netflix? Ce programme, il a quand même un petit peu démocratiser l'accès à l'IMO, enfin le côté IMO, quoi, dans un programme de grand public. Je sais pas ce que tu as pensé de ça.
Alors, je regarde.
Les plus et les moins, peut-être.
Alors, pour moi, c'est les Stéphane Plaza du luxe. parce qu'ils démocratisent. C'est dans le sens, je vulgarise, je démocratise et tout. Bon, c'est la télé-réalité, donc tout est calculé, étudié, machin, etc. Donc, c'est pas la vraie vie. Par contre, moi, j'en regarde parce que ça me permet de voir des biens, des maisons que jamais je découvrirai. Même près de chez moi, j'habite à Boulogne, il y a des baraques à Boulogne, je ne savais pas qu'il existait.
Oui, le côté larger than life, je te déniche des trucs incroyables.
Et on voit qu'il y a des gens, effectivement, qui ont énormément de moyens, mais c'est un côté plutôt sympathique.
Mais tu t'y réelles, ou il y a une bonne part de mise en scène de toi à moi? Parce qu'à regarder, en fait, l'IMO, ça continue à cartonner, il y a des milliardaires. On est d'accord qu'il y a évidemment la réalité du programme, mais je pense que la réalité n'est pas exactement
la même. Eux sont sur un créneau où il n'y a pas la crise, entre guillemets. Je veux dire, ils sont sur une clientèle qui est.
Mais ça, c'est vrai ou c'est pas si vrai que ça? Est-ce qu'il y a vraiment...
Ils se développent bien et puis les acteurs du luxe, on va parler d'autres plus connus comme Barnes, Féo, Émile Garcin à Paris, John Taylor, etc. Ils sont sur des marchés où il y a pas de sujet, quoi, je veux dire. Ça s'est un peu calmé avec le
Covid.
Ils
sont un peu touchés ou pas du tout touchés?
Non, ils sont pas touchés, enfin, franchement. D'accord. C'est pas l'immobilier, c'est 1% du marché, ça même pas. Donc,
1% du marché. Et la dernière question, c'est le conseil que tu donnerais plutôt plutôt toujours un conseil de transmission pour la nouvelle génération, qui veut peut-être se lancer, aller dans l'immobilier, on va dire. Après leur vie scolaire,
c'est comme tout secteur en fait. Hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs. Soit
j'ai
pro bono,
du lion là pour y aller après ce podcast.
Il faut y aller. Enfin, là, il y a une crise, mais tu l'as dit tout à l'heure, crise égale opportunité. Donc ça va bouger. Il va y avoir des morts, ça c'est sûr. Il y en a déjà dans plein de secteurs. Hein. On les a tous cités. Au contraire, il faut y aller. Il faut oser. Et puis il faut se faire accompagner, prendre des mentors. Je ne parle pas que de moi, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à échanger. Avec des acteurs du marché.
Amener un peu de sang neuf dans ces. Est-ce que ça va passer par des nouveaux acteurs et aussi des acteurs existants qui vont se réinventer? C'est un peu des deux, quoi.
Alors, il y a les deux. Alors, le plus dur, c'est de se réinventer quand on a été sur un modèle pendant des années et qu'on ne l'a pas trop évolué. Ça, c'est le plus dur. C'est pour ça que les grands groupes, Angoin et Nexity, qui étaient pourtant le plus diversifié, le plus intégré, le plus tout, c'est celui qui est le plus en difficulté. Il est en train de revendre des bijoux de famille. C'est très compliqué. Je pense que c'est les acteurs les plus agiles en promotion, par exemple, pour aller vers la surélévation, entre autres. Enfin, il faut être agile, je pense. Là, big is not beautiful, pour le coup. Hein.
Donc, il faut être agile et smart.
Agile et smart.
Ouais, c'est le mot-clé. Écoute, Arnaud, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Merci. Merci, Alexis.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Businesses can leak profits by paying way too much for supply chain efforts. FreightWise, and now Cubix by FreightWise, understands how to streamline your logistics operations, saving your team money and valuable time. Transforming your company's operations to its full potential. We are so confident in building a successful supply chain partnership with you, we are offering a no-cost, no-obligation consultation. Learn more at freightwisellc.com and let the experts help you out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Zibby Owens, and I am the host of the award-winning podcast, Moms Don't Have Time to Read Books. I have daily author interview podcasts, over 1,600 of them that I've recorded over the last 5 years. Hear from all your favorite best-selling authors, celebrities, and more, even if you're too busy to read the books. Moms Don't Have Time to Read Books. Again, that's Moms Don't Have Time to Read Books. Listen today.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.